inkosi ukuba sithole leli thuba lokuba sihlangane njengabazali.
Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir nous remercier de rassembler encore en tant que parents. Prends toi entre tes mains cette réunion et que tu puisses agir, que chaque parent puisse trouver de l'aide. Et que aussi les jeunes et les enfants puissent être aidés. Seigneur, sois avec nous, s'il te plaît. Amen. Alors nous voulons lire un texte qui se trouve dans Deutéronome, verset 6, au chapitre 6. Et avant de lire, alors, on peut se poser la question, est-ce que les parents ont encore à avoir une autorité, une influence sur leurs enfants, même dans l'époque qui est la nôtre? Et c'est le thème. Et on peut dire, effectivement, les choses dans notre monde sont difficiles. Alors, nous voulons considérer un texte qui est, se trouve Deutéronome, chapitre 6, et à partir de verset 4. Je lis dans la version Semeur. « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. » Notre traduction dit « L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. » Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Nous allons lire jusque-là. Donc voilà, le texte que nous avons lu commence par s'adresser aux parents. Quand Dieu parle dans ce passage sur l'éducation et de transmission des valeurs et des commandements de Dieu, Dieu commence par les parents. Et il en doit naître ainsi, parce que ce ne sont pas les enfants qui ont amené les parents au monde. Ce sont les parents qui emmènent ou qui portent les enfants au monde, qui amènent les enfants au monde. Ainsi, quand Dieu parle, considérons ce qu'il nous dit et à qui il s'adresse, à nous, parents. En fait, nous ne pouvons pas avoir autorité, nous ne pouvons pas nous adresser à nos enfants si d'abord Dieu ne s'est pas adressé à nous, si d'abord Dieu ne nous a pas parlé. C'est comme prêcher. Un prédicateur ne peut pas s'adresser, prêcher aux autres sans avoir préalablement s'être mis à genoux en disant « Seigneur, parle-moi ». Aucune parole ne peut être prêchée aux autres avant que nous soyons arrivés à ce point de dire « Seigneur, parle-moi d'abord ». Et si tu veux t'adresser, si tu veux avoir autorité sur tes enfants, alors il faut d'abord que tu connaisses et que tu expérimentes que Dieu te parle, que Dieu s'adresse à toi d'abord. Parents, si nous essayons de prêcher à nos enfants, de les enseigner, mais que Dieu ne nous a pas parlé d'abord, alors nous allons provoquer qu'une seule chose chez nos enfants, c'est d'endurcir leur cœur. Si nous voulons transmettre un message aux autres, alors il faut d'abord que ce même message commence chez nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que nous saisissons, que nous comprenons complètement. Peut-être, tu te plains en disant « Ah, tes enfants ne veulent rien savoir du Seigneur, ils ne veulent pas obéir. » Alors, pose-toi la question toi-même, parent. Est-ce que tu obéis au Seigneur ? Cette semaine, j'étais en visite à l'hôpital. Et c'est une visite dont j'ai déjà parlé, et j'ai visité un enfant de Dieu qui était hospitalisé. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvé dans son lit et souffrant. Et j'ai découvert en le visitant que ses deux jambes avaient été amputées. Et j'ai vu qu'il avait des tuyaux, donc il était branché, mais qu'il avait aussi des cicatrices et des blessures dans le dos. Et alors, il s'est adressé à moi. Il m'a dit, « Pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour que le Seigneur me fasse grâce, que lorsque je ressortirai de l'hôpital, je puisse rentrer dans mon quartier, je puisse rassembler les jeunes et leur prêcher ?» mais il était dans un état désespéré. Et au point où je me suis dit, mais il va jamais ressortir de cet état. Vu son état, il va jamais sortir de l'hôpital. Mais malgré son état, il avait cette préoccupation de parler et de prêcher aux jeunes de son quartier. Et donc il demandait qu'on puisse prier pour cela. Et il m'a dit, pasteur, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous, parents, nous avons pris une décision pour le Seigneur, mais ce sont nos enfants qui nous influencent pour quitter, pour oublier le Seigneur. Et il continuait en me disant, pasteur, pour nous les Africains, le problème, c'est que ce sont nos enfants qui nous ramènent dans le monde, qui nous ramènent au culte des ancêtres, qui nous influencent. Et alors il m'a dit, je suis là, malade, des blessures de partout, on vient de m'amputer les deux jambes. Et les gens de son entourage lui ont dit, mais si tu es dans cet état, c'est parce que tu as rejeté le culte des ancêtres, tu as rejeté l'occultisme. C'est pour ça qu'il t'arrive tous ces malheurs. Mais il m'a dit, et il m'a dit, il a continué ce... Cette personne qui était alitée m'a dit, certains m'ont même dit que si je devais mourir, vu l'état dans lequel je suis, parce que j'ai rejeté le culte des ancêtres, alors je resterais avec les blancs en l'au-delà. Et donc, considérez cet homme dans cet état, dans l'état dans lequel il était. Il se préoccupait. Et malgré le fait que cet homme ne fait pas partie de notre assemblée, j'ai beaucoup de respect pour un tel homme qui prend une telle position. Et il a continué en me disant, on m'a promis, donc cet homme continuait à s'adresser en clair l'eau en disant, on m'a promis, quand je sortirai de l'hôpital, on me donnera une chaise roulante. Et alors, je veux aller et prêcher l'évangile dans mon quartier avec ma chaise roulante. Et je me souviens de cet homme. Il était en étant bien habillé, avec un costume, trois pièces. Et en le voyant dans son lit, je me suis dit, comme quoi les choses peuvent changer bien vite. Je me rappelle de lui et qu'il était habillé comme un gentleman avec son chapeau, et lorsqu'on le voyait, on le voit dans son lit, dans l'état dans lequel il est, alors ça brise le cœur. Pourtant un homme d'un âge respectable avec des cheveux blancs. Il était encore dans l'ambulance quand je suis arrivé à l'hôpital. Et alors une infirmière est sortie en disant, est-ce que un tel est là? Et elle n'a même pas dit monsieur un tel. Et je me suis dit, ah, comme les choses changent. Les Il n'y a plus de respect pour les personnes d'un certain âge. Et je me suis dit, il faudra que je m'adresse aux infirmières pour leur dire, mais est-ce que vous connaissez, vous savez qui est cet homme? Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous n'avez pas un peu de respect pour personne d'un certain âge aux cheveux blancs? Alors cet homme a continué à me dire « Pasteur, les choses ont changé, la société a bien évolué, les gens n'ont plus de respect les uns pour les autres. » Alors, parents, voilà l'état de notre société, de notre jeunesse aujourd'hui. Mais d'où est-ce qu'ils ont tiré, d'où ils ont appris ces choses? Ils ne l'ont pas découvert par hasard, ils l'ont appris de nous, parents. Ces enfants, ces jeunes, ne sont pas allés boire le lait sur le pis de la vache. Mais ce sont nous, parents, qui les avons éduqués, qui les avons nourris et fait grandir. Donc, à nous de nous poser la question, parents, comment se fait-il que nos enfants, nos jeunes, soient ainsi? Comment se fait-il que nos jeunes soient si sauvages? Alors, rappelez-vous, quand Dieu s'est adressé à Israël et qu'il a indiqué de quelle manière il fallait éduquer les enfants, alors Dieu a commencé à s'adresser d'abord aux parents. Alors, laissez-moi vous rappeler et nous rappeler l'histoire, la première, au début de la Bible, la première famille d'Adam et Ève, avant même qu'ils n'aient des enfants. Alors, lisons Genèse, chapitre 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. » Alors lisons ensuite chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Dans notre version, il dit « une aide semblable à lui. » Verset 19, « L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Verset Verset 20, l'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Verset 23. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Nous allons le lire jusque-là, verset 25, chapitre 2. Alors, considérons un peu ce texte. Alors, avant de parler des enfants, nous voulons considérer et parler du mariage. Parce que cette réunion s'adresse en particulier aux parents, donc aux gens mariés. Alors commençons par nous parents, nous qui sommes mariés. Le mariage n'a jamais été institué par l'homme. Le mariage a été créé par Dieu lui-même. Il y en a qui tordent les Écritures. Comme la Bible nous dit, pour l'homme impur, tout est impur. Mais pour l'homme pur, tout est pur. À celui qui est corrompu, tout est corrompu. Il y en a donc qui disent « Ah, mais non, le mariage, c'est quelque chose d'humain, donc c'est même certains disent « c'est péché ». Et alors aussi, ils vont dire, certains, que quand Ève a mangé du fruit de l'arbre, alors certains interprètent ça en disant ils ont une relation conjugale. Certains disent qu'il s'agissait d'une pomme, mais la Bible n'a jamais parlé de pomme. La Bible nous dit que c'était l'arbre du fruit. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait que certains le présentent comme étant une pomme n'est qu'un conte humain, certaines interprétations, certains, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ces personnes aiment les pommes qu'ils parlent de ce fruit comme étant une pomme? Et certains encore ils interprètent la Bible en disant ah mais quand la femme a pris la pomme, en fait, Adam et Ève ont eu une relation conjugale. Je ne sais pas comment de telles personnes, comment des personnes peuvent arriver à de telles conclusions. Et alors, ils disent ainsi, en interprétant les Écritures de cette manière, que le mariage, la relation entre un homme et une femme est péché et immoral. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Chapitre 1, verset 28, il est dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, on pourrait dire que c'est Dieu qui les a mariés. Ce n'est pas, le mariage n'est pas une institution humaine. C'est Dieu lui-même qui a établi le mariage. En d'autres termes, le mariage a été institué, a été mis en place, a été créé par Dieu lui-même. Et les païens ne connaissent pas cet aspect du mariage. Et malheureusement, il en est aussi ainsi parmi certains croyants qui sont ignorants de la parole de Dieu. Ou qui sont ignorants, qui ignorent ce point. Donc, déjà dans le jardin d'Éden, dans le paradis, Dieu avait institué le mariage, donc dès le début. C'est Dieu qui a béni ce couple. C'est Dieu qui les a emmenés, qui les a unis, qui les a amenés l'un vers l'autre. Donc, le mariage est un appel élevé de Dieu lui-même. En fait, si le mariage n'était que ce que Dieu avait à instituer, alors quel merveilleux monde dans lequel nous vivrions. Et la première chose que Dieu a dit une fois après avoir créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc c'est Dieu qui a remarqué, c'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'a jamais été Adam qui a initié en disant « Ah Seigneur, je m'ennuie, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour être à mes côtés. » Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a vu et qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Parce que Dieu a aussi réalisé en étant seul, l'homme resterait seul. Mais Dieu désirait que l'homme se reproduise et remplisse la terre. C'est l'ordre qu'il a donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné une limite, comme le font certains pays où ils disent il faut limiter un enfant par couple. Non, Dieu n'a pas donné de limite. Hormis la limite naturelle, mais l'homme corrompu avec sa compréhension corrompue des choses, met, on pourrait dire, le pied dans la porte, et alors rajoute sa corruption. Mais Dieu a dit, si l'homme reste seul, il ne pourra pas se multiplier. Et il en est de même avec la femme. Si elle reste seule, elle ne peut pas se multiplier. Et nous avons lu comment Dieu a apporté ou a fait venir tous les animaux et en demandant à Adam de nommer les animaux. Alors, imaginez de nommer chaque animal. C'était aussi prendre en compte les caractéristiques de l'animal. Parce que le nom a quand même une signification. Alors, pour vous, parents aussi, faites attention au nom que vous donnez à vos propres enfants. Parce que même dans la Bible, nous voyons que le nom a une signification, les noms ont une signification. Et nous voyons comment Dieu alors a mené ou fait venir les animaux et il a demandé à l'homme, à Adam, de nommer les animaux. Donc, les oiseaux, on peut imaginer les ces oiseaux avec des magnifiques couleurs, les canaris, les perroquets avec les belles couleurs. Et Adam a alors nommé chaque oiseau. Alors le corbeau s'est présenté avec sa robe noire et alors Adam l'a nommé corbeau. Et alors le lion s'est présenté et alors Adam a nommé en disant voilà le lion et la vache. Et parmi toutes ces créatures, Adam n'a pas trouvé une aide semblable. On pourrait dire, il n'a pas trouvé une créature qui soit semblable à lui, qui puisse lui donner une descendance. Dieu n'a pas permis que l'homme s'unisse avec un animal. Et malheureusement, c'est des choses que l'on voit dans notre société d'aujourd'hui. Et cela vient direct de l'enfer, la bestialité, quelque chose de diabolique. Mais parce que Dieu a initié à celui qui est au départ et qui a créé le mariage, alors Dieu a fait tomber Adam dans un grand sommeil. Comme vous savez, vous avez aujourd'hui encore des anesthésistes qui vous endorment et les médecins, les chirurgiens peuvent vous opérer et vous ne vous rendez compte de rien. Alors on pourrait dire Dieu a anesthésié Adam et alors il est tombé dans un grand sommeil. Peut-être certains disent « Ah, l'humain est intelligent, qu'il est capable d'inventer des anesthésiants. » Mais Dieu avait déjà créé l'anesthésiant. Et on sait aussi déjà comment certaines découvertes scientifiques ou même médicales ont en fait aussi était déjà dans la Bible. Et donc Dieu a fait dormir Adam et il a pris une côte et il a refermé le côté en y remettant la chair. Et on pourrait dire que c'était la première opération chirurgicale. Et ainsi Dieu a fait la première opération chirurgicale sur l'homme. Et Adam a dormi, il était complètement ignorant ou inconscient ou ne se rendait pas compte de ce que Dieu était en train de faire. Et Dieu était occupé. Alors laissez-moi juste faire une remarque avant de parler de l'œuvre que Dieu a fait ensuite. C'est une chose merveilleuse. Quand Dieu est à l'œuvre, quand Dieu unit l'homme et la femme, et que tu peux être endormi et tu n'as pas besoin d'être préoccupé par cela. Et le péché, alors, n'est pas impliqué dans l'histoire. Donc Adam était occupé à dormir et Dieu était en train de l'opérer. Et tout cela s'est passé. Et c'est merveilleux lorsque Dieu peut être à l'œuvre et sans que tu t'en rendes compte, sans que tu en aies conscience. Imaginez si Adam avait refusé de dormir en disant « Non, non, mais je veux voir et savoir ce qui se passe. » Alors il aurait sûrement connu de grandes douleurs. Mais en se confiant dans le Seigneur, en laissant le Seigneur faire, alors il n'a pas ressenti de douleur. Mais lorsque le péché est impliqué, alors les douleurs ne s'arrêtent pas. Quand le péché est présent, qu'est-ce que cela ne provoque pas? Le péché te tourmente, t'empêche de dormir au point que même certains en arrivent à considérer, à penser, à se suicider à cause du tourment du péché. Comme un enfant à qui on dit « Ne touche pas au feu, ne touche pas à la vitre du four. » Mais l'enfant n'écoute pas et alors il se brûle en touchant ce qu'on lui a dit de ne pas toucher. Et alors l'enfant court, se précipite vers la personne qui lui avait dit de ne pas toucher. Et alors vous, enfant jeune, écoutez. Écoutez ce que l'on vous dit, parce que sinon vous allez connaître les douleurs et la souffrance. Fuis le péché, toi jeune homme, jeune fille, fuis le péché. Alors ne t'enorgueillis pas en disant « Ah, mais moi je suis jeune, j'ai tout compris, les vieux, ils connaissent rien, mais moi je suis plus intelligent que tout le monde, je sais. » Alors sache que nous n'avons jamais connu une jeunesse avec si peu d'intelligence. Tu as beau leur parler, les avertir, ils ne veulent pas écouter. Alors laissons ce point de côté et nous voyons dans le passage que donc Dieu a agi, a opéré Adam, on pourrait dire, et qu'Adam était complètement inconscient, il ne savait pas de ce qu'il se passait. Et alors, lisons ou considérons maintenant cette chose merveilleuse, ce point merveilleux. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Alors, laissez-moi parler en anglais. C'est malheureux parce que des fois, avec la traduction, on ne peut pas traduire de la même manière. En zoulou, il est dit, il est dit que Dieu a construit Ève à partir de Adam, ou à partir de la côte. Donc, en allemand, il y a dit aussi que Dieu a bâti, a construit Ève à partir de la côte d'Adam. On peut dire donc que comme on construit une maison, Dieu a construit Ève à partir de la côte qu'il a pris de Adam. Et c'est quelque chose de merveilleux. Adam a été créé. Mais Ève a été construite. N'est-ce pas quelque chose à retenir, que Dieu a créé l'homme, mais qu'il a construit Ève. Et il l'a fait alors que Adam était en train de dormir. Donc c'était différent entre l'homme et la femme. Et le même, Dieu a fait que les enfants aussi sont créés différemment de l'homme et de la femme. En d'autres termes, Dieu a sa place pour chaque homme, pour chaque femme et pour l'enfant. Il a un plan pour chacun. Non pas qu'un enfant a moins de valeur aux yeux de Dieu, non plus la femme n'a pas moins de valeur aux yeux de Dieu. Chacun est précieux aux yeux de Dieu, mais chacun a sa manière. Chacun a son rôle, a sa position, que ce soit l'homme, la femme ou l'enfant. Donc, Dieu a construit Ève. Et Dieu l'a faite, on pourrait dire, comme quand l'homme construit une maison, et après l'avoir achevée, il est dit que Dieu a présenté Ève à Adam. Et à ce moment-là, Adam s'est réveillé et il a vu Ève. Et Adam s'est réveillé. Et rappelez-vous que Adam avait nommé tous les animaux. Et pour la première fois, alors, il a vu Ève. Et pourtant, bien que le corps de Ève était différent du sien, il y avait une différence dans l'apparence. Mais malgré cela, quand Dieu a présenté Ève à Adam, alors il est dit au verset 23, l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc dès qu'il a mis, il a vu, il a posé les yeux sur elle, alors il a vu qu'elle était comme lui. Et il a dit même, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Et il n'a pas dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette créature, parce qu'elle avait une apparence différente de lui. Leur corps était différent, mais pourtant, Adam a reconnu immédiatement qu'elle était chair de sa chair et os de ses os. Qui a révélé cela à Adam? Les choses se sont passées pendant qu'il dormait. Et c'est comme si il était rempli de l'Esprit de Dieu et il a reconnu et il a pu ainsi il a pu énoncer une vérité bien qu'il était endormi quand cela s'est passé. Mais quand il s'est réveillé par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il a reconnu que Ève était chair de sa chair. Et Adam était inconscient, était pas au courant de ce que Dieu était en train de faire. Mais en se réveillant, il a tout de suite vu. Et Dieu les a alors unis. Il est dit que Dieu les a bénis et ils sont devenus un. Et on peut dire que c'est Dieu qui les a mariés. Et rappelez-vous, le péché n'est rentré qu'après. Donc, le fait qu'ils étaient un n'était pas quelque chose de péché. C'était la volonté de Dieu qu'ils s'unissent et qu'ils ne fassent qu'un. Mais qu'est-ce qui... Cela brise le cœur de voir que juste après, déjà dans le jardin d'Éden, dans le paradis, le péché s'est introduit. Et en termes humains, il n'y a pas de relation plus profonde, plus intime que dans le mariage, dans un couple. Lorsqu'il y a une unité d'esprit entre deux personnes, rien ne peut surpasser, ne peut dépasser cette union. Et il en aurait été ainsi pour toujours. Mais malheureusement, le péché a été introduit et Adam a péché. Alors la douceur de leur union a pris fin. La beauté, la perfection a pris fin. Ce que Dieu avait créé, qui était si merveilleux, si beau, si précieux, a été alors détruit, a été corrompu par le péché. Le péché a été introduit et a détruit. C'est comme si on renverse le lait, et il y en a partout. Oh, si nous puissions comprendre le sérieux, la gravité du péché, alors nous serions plus craintifs, nous veillerons, nous serions plus prudents et ferions plus attention au péché. Et les choses dans les familles, dans les couples, la corruption dans les couples, tout cela vient de quoi? Du péché. Et il est dit qu'à cause du péché, Adam a alors dû suer pour tirer le fruit de la terre. Et la femme a dû aussi souffrir pour mettre au monde les enfants, au point que certaines meurent au moment de mettre au monde leur enfant. Et alors, suite. L'esclavage a été introduit et au point que certaines femmes rentrent dans une relation où elles sont, on pourrait dire, esclaves de leur mari. Et à cause du péché, la corruption est rentrée dans l'union de l'homme et de la femme. Dieu avait présenté les animaux devant Adam. Et Adam n'a pas trouvé d'animal qui corresponde. Et malheureusement, vous avez certains couples aujourd'hui qui vivent comme des animaux. Certains couples, certaines personnes vivent à la manière des animaux. Et cela, un tel comportement, tu connaîtras la corruption, mais aussi les souffrances, et c'est déjà un avant-goût de l'enfer quand tu vis une telle relation. Donc Dieu a créé le mariage pour être harmonieux, quelque chose de beau, mais malheureusement le péché a corrompu tout cela. Et au point même que dans certains couples, l'un des conjoints n'attend qu'une chose, c'est que l'autre meure, et peut-être même ils échafaudent des plans pour savoir quel sera le conjoint suivant. Mais le mariage a été institué par Dieu. Cela venait de Dieu. Il n'y avait rien. C'était avant que le péché ne corrompe le couple. C'était quelque chose de merveilleux. C'est Dieu qui a créé l'homme, qui l'a créé, et c'est lui qui a construit, qui a formé la femme, Ève. C'est lui qui les a unis, qui les a marié, et le couple, ce mariage aurait dû être le ciel sur la terre. Mais malheureusement, Adam a raté le coche, il a péché, et alors le paradis, le jardin d'Éden est devenu un désert. La douceur est devenue amère. Le doux sommeil d'Adam est devenu une douleur d'agonie. Malheureusement, Adam a chuté. Et la question se pose alors, qu'en est-il de ta vie? Examine ta vie. Toi, tu as été créé par Dieu. Es-tu là? Es-tu dans le plan que Dieu a voulu pour toi? Dieu avait un plan pour Adam, il a un plan pour toi, mais où te trouves-tu? Alors considère l'état d'Adam. Lorsque Adam, lorsque Ève a été présentée à Adam, alors il s'est rendu compte. Voilà chair de ma chair. Et considère le discernement qu'il a eu, la sagesse qu'il avait et qu'il a eu pour nommer les animaux, pour aussi y voir, non, ce n'est pas un, ce n'est pas une créature pour moi, semblable à moi. Mais par contre, quand Ève s'est présentée, il l'a tout de suite vue. Il avait le discernement, la sagesse, plus grande encore que celle de Salomon, qui lui a permis de voir, quand Ève s'est présentée, de pouvoir dire « Voici, chair de ma chair, os de mes os. » Et nous savons aussi que Adam s'entretenait avec Dieu. Et dans ce paradis, les deux ont péché. Et malheureusement, quand Ève s'est présentée à Adam avec ce fruit défendu, alors malheureusement, Adam n'a pas eu ce discernement qu'il a eu précédemment. Et il n'a pas alors discerné quelle était la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons dire des hommes d'aujourd'hui? Beaucoup sont des bons à rien. Ils ne pensent qu'à boire, qu'à fumer, qu'à coucher. Et alors, peut-être que nous nous plaignons en disant « Ah, les jeunes n'écoutent pas, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils ne se comportent mal. » Mais est-ce que la faute n'est pas chez nous? Et nous, hommes, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Est-ce que la faute n'est pas chez nous? Est-ce que nous n'avons pas commencé par balayer devant notre porte? Nous remarquons aujourd'hui comment les jeunes gens ou les jeunes hommes peuvent parfois dire ou rapidement dire « Ah, mais je sais que c'est la volonté de Dieu, le Seigneur m'a parlé pour que je me marie avec telle jeune fille. » Mais malheureusement, une fois qu'ils sont mariés, il n'y a plus rien, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Je connais un jeune homme. Je connais beaucoup de jeunes hommes qui entendent la voix de Dieu pour la première fois et pour la dernière fois lorsqu'il s'agit de se marier. Et malheureusement, c'est la seule et unique fois où ils entendent la voix de Dieu. Le reste de leur vie, ils n'entendent rien. Ils ne peuvent pas témoigner qu'ils entendent la voix de Dieu. Alors, nous, hommes, est-ce que nous... Comment est-ce que tu crois avoir, recevoir le respect ? Est-ce que tu crois c'est simplement en rentrant à la maison, en te ton comportant comme un lion et en tapant ou en criant ? Est-ce que tu crois que c'est comme ça que tu vas avoir du respect de la part de ta famille, de ta femme ? Et tu exiges que ta femme écoute et obéisse. Et tu exiges que tout le monde t'écoute et obéisse. Mais toi-même, tu n'écoutes pas. Toi-même, tu n'obéis pas au Seigneur. Et même les païens ou les gens qui sont autour de toi ne te respectent pas parce que toi-même, tu n'obéis pas. Alors, comment veux-tu avoir du respect ? Et peut-être, toi, femme, tu te dis « Ah, il est bon que mon mari entende une telle chose. » Et peut-être, tu as raison. Mais rappelez-vous, quand Jésus s'est lamenté sur Jérusalem, rappelez-vous que le Seigneur s'est aussi adressé aux femmes. Mais considérons et parlons, adressons-nous d'abord aux hommes. Et si les choses sont ainsi de nos jours, c'est à cause des maris, à cause des hommes. Oui, c'est Ève qui a péché en premier. Mais toi, homme, si tu étais si plein de discernement comme Adam l'a été au moment où Ève s'est présentée à lui, si tu es plein de discernement et de sagesse divine, alors tu es capable de discerner là où est le péché. Alors c'est pourquoi à toi, homme, alors toi, homme, examine ta vie et que le péché qu'il y a dans ta vie qui n'a pas été mis à la lumière, qui n'a pas été confessé, alors prends les choses en main et viens et mets ta vie à la lumière. Et ça commence par toi. Toi, homme, commence par toi. Peut-être la famille, ta famille est ce qu'elle est à cause de toi. Et toi aussi, femme, à toi aussi de t'examiner. Parce que peut-être que la situation de ta famille est à cause de toi parce que tu nourris tes enfants avec le poison. Nous l'avons prié. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole permet à l'homme de marcher droit. Et que ce soit un homme, une femme ou un enfant. En effet, Seigneur, ce que tu avais créé était merveilleux, était parfait, mais malheureusement, le péché s'est introduit. Mais ce qui était si respectable a perdu de sa respectabilité et la maison que tu avais construite a été transformée en ruine. Mais Seigneur, c'est toi qui sais comment rebâtir. C'est toi qui peux rebâtir l'homme, qui peux rebâtir la femme. Aide, Seigneur, chaque homme à entendre ta voix et que celui qui a quelque chose qui n'est pas juste dans sa vie, qu'il puisse le mettre en ordre. Amen. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons été à nouveau bénis parce que nous avons entendu. Et je me rappelle comment moi-même, quand j'étais jeune, je me disais, peut-être je ne me marierai que quand j'aurai 40 ans, parce que on veut être un exemple de pureté pour les autres jeunes. Mais le Seigneur s'est présenté à moi de manière rapide, quand j'étais encore bien jeune. Et je me suis marié. Et je suis toujours un peu troublé quand quelqu'un vient me voir en disant « Ah, je ne sais pas avec qui je vais me marier. » Des gens qui sont préoccupés par ces choses. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas préoccupé par ça. Donc, quand ça s'est présenté à moi, c'était comme une surprise. J'étais préoccupé à annoncer l'Évangile. Et donc, pour moi, cette chose ne m'a jamais troublé. En me disant à l'époque, à qui est-ce que je vais me marier, etc. Et j'attends pour me marier. Mais le Seigneur s'est présenté à moi. Et le Seigneur m'a montré que c'était sa volonté que je me marie à ce moment-là. Et même des années plus tard, quand ma femme est décédée, alors je me suis dit, ah, le Seigneur m'a redonné l'occasion de pouvoir être complètement consacré à prêcher l'Évangile. Et je n'étais pas préoccupé par me remarier. Et à nouveau, c'est comme si le Seigneur m'a mis dans un coin, m'a coincé. Et j'ai même dit, mais cela ne m'est pas possible. Cela ne vient pas de Dieu. Que je me remarie, je ne suis pas préoccupé par ces choses. Mais finalement, je suis allé voir un serviteur de Dieu et Dieu m'a, comme s'il m'avait mis dans un coin, m'a coincé. Et alors, j'ai dû aussi me soumettre et accepter la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, comme Adam, nous devons entendre, nous devons être en relation avec Dieu et nous devons chercher sa volonté, même dans cette question, en disant « Seigneur, quelle est ta volonté dans ce domaine ?» Alors, chers hommes, chères femmes, chers enfants, apprenons de la vie d'Adam. Nous voulons chercher la volonté et vivre en cherchant la volonté de Dieu. Seigneur, alors que nous avons déjà prié, mais de nouveau, nous voulons prier et te demander, Seigneur, agis à travers de ce que nous avons entendu. Et alors que nous méditons les paroles que nous avons entendues, que ce soit toi qui agisse dans nos cœurs, que tu puisses te révéler à nous individuellement. Amen.